La Bible révèle que la fin de toutes choses est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ.
Je vous souhaite la bienvenue, un très bon sabbat et nous allons maintenant commencer par invoquer la présence de notre Dieu. Donc, je vous invite à prier avec moi. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce doux privilège que tu nous accordes de pouvoir venir en ta présence en ce saint jour de sabbat. Nous venons, notre Père céleste, les cœurs reconnaissants, car tu nous as préservé la vie. Tu as œuvré en nous tout au long de cette semaine, Seigneur, et tu nous as conduits jusqu'ici. Et maintenant, nous sommes arrivés à ce moment, Seigneur, où il incombe à ton serviteur d'exécuter, Seigneur, cette fonction, de remplir cette charge que de nourrir ton peuple d'une manière toute particulière. Et comme cela était indiqué dans le système typique du sanctuaire terrestre, où le pain devait être remplacé chaque sabbat, une nourriture fraîche devait être apportée. Notre Père céleste, toute la gloire te revient et doit te revenir en toutes choses. C'est pour cela que je te demande de toucher ton serviteur, afin que les paroles qui soient prononcées soient de nature à pouvoir apporter un éclairage concernant les temps dans lesquels nous vivons, et que ton peuple puisse prendre conscience et réaliser l'urgence dans laquelle nous sommes et la préparation qui nous incombe. Que tu puisses ainsi disposer le cœur de chacun, l'entendement, les oreilles, que rien ne vienne perturber, au tendre Père céleste, ce service, et que tu puisses bénir celles et ceux qui, effectivement, regarderont aussi les rediffusions, les enregistrements. Que ton nom seul soit glorifié. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Le titre de la présentation de ce matin est « Laudato si 2020 ». Du panthéisme au dimanche. Cette présentation est le troisième numéro du volume 3 de notre série de présentations « Les signes des temps » durant lesquels nous observons à la lumière de la prophétie biblique les signes annonciateurs du retour de Jésus, de manière à nous permettre de prendre conscience du retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais que nous nous rendions, de manière à pouvoir commencer cette présentation, dans ce livre qui est la parole de Dieu. Je vous invite maintenant, à vous rendre avec moi dans le dernier livre, qui est l'Apocalypse, au chapitre 14. Et là, Dieu envoie à notre monde une proclamation avant le retour de Jésus. En effet, le retour de Jésus nous y est présenté à partir du verset 14. Apocalypse 14, verset 14. « Je regardais encore, et voici, il y avait une nuée blanche. » Et sur la nuée, quelqu'un assis qui ressemblait au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et en sa main une faux tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sous la nuée, « Jette ta faux et moissonne, car le temps de moissonner est venu, parce que la moisson de la terre est mûre. Alors celui qui était assis sous la nuée jeta sa faux sur la terre, et la terre fut moissonnée. » Il s'agit ici de la moisson. La moisson qui est la fin du monde, d'après ce que Jésus nous a déclaré en Matthieu 13, verset 39. C'est le retour de Jésus. Or, avant que Jésus ne revienne sur cette terre, il y a une triple proclamation qui doit être entendue, de manière à préparer le peuple de Dieu, les habitants de cette terre, de sorte que nul ni d'excuses, lorsque Christ apparaîtra. Cette triple proclamation, nous la lisons à partir du verset 6. « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation, tribu et langue et peuple. » Un ange dans la prophétie biblique est le symbole de messager. Cela est le symbole de messager. Dieu n'a pas confié la charge de la proclamation de l'évangile à des anges. Quand nous regardons l'Écriture, il s'agit d'êtres humains par qui le Seigneur, au final, passe pour communiquer. Donc, cela est le symbole de messager, de mouvement prophétique qui annonce un message divin. Et ce message, voyez-vous, il est annoncé à toute la terre. Ce n'est pas un message qui est cantonné uniquement à certaines régions, mais véritablement à toute la terre. Toutes les langues, tous les peuples entendent ce message. Et ce dernier a pour teneur les paroles suivantes. En disant d'une voix forte, craignez Dieu, c'est-à-dire de lui obéir, de garder ses commandements, et lui donner gloire. De lui donner gloire, de refléter son caractère. Car l'heure de son jugement est venue. L'heure du jugement investigatif. C'est la signification du terme grec qui est traduit ici par jugement, en fait. Le jugement investigatif est venu. Et pour cela, il poursuit en disant, « Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Il nous demande d'adorer le Créateur. Et le langage qui est employé ici est emprunté au quatrième commandement du Décalogue, du quatrième commandement des 10. Nous retrouvons les trois caractéristiques du sceau, d'accord ? À savoir le nom, l'Éternel, son statut, il est Créateur, et son domaine, le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Notez qu'il est précisé qu'il nous faut adorer celui qui a fait, celui qui a créé. Il n'est pas dit qu'il nous faut adorer la création, mais d'adorer le Créateur. Il nous faut adorer le Créateur. Malheureusement, certains individus n'ont pas accepté ce message. Je dis qu'ils n'ont pas accepté ce message parce que cette proclamation, historiquement parlant, a eu lieu, a commencé au début du 19e siècle. Le jugement dont il est parlé ici a commencé le 22 octobre 1844. Et une fois la date arrivée, une fois que cette proclamation a accompli son objectif, les églises protestantes se sont moquées des prédicateurs et elles ont suivi en cela l'Église mère, l'Église catholique romaine, qui elle-même est décrite en Apocalypse 17 comme étant la mère des prostituées. Nous n'avons ici rien contre les catholiques, les croyants catholiques. Nous aimons les catholiques. Mais il s'agit ici d'un système dont il nous est parlé, en fait. Des organisations religieuses qui cessent de défendre la vérité biblique telle qu'elle nous est présentée ici. Et elles ont rejeté cette proclamation du jugement où Christ entre à partir du 22 octobre 1844. Il est entré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour commencer l'œuvre de l'expiation finale, la purification des péchés. Et lorsque ce rejet a été exprimé, Dieu a envoyé une deuxième proclamation, telle que cela a été prophétisé, pour décrire l'état de ces églises qui ont rejeté ce message. Lisons-le au verset 8. « Et un autre ange le suivit en disant, « elle est tombée, Babylone la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toute la nation du vin de la fureur de son impudicité. » En rejetant ce message, les croyants se sont et se et continueront à se condamner à devenir Babylone, des églises où règne la confusion, où la moralité est à son niveau le plus bas. C'est pour cela qu'on dit que Babylone est tombée. Elle est tombée. Et lorsqu'on rejette l'évangile éternel, mes amis, en tant qu'église, qu'est-ce qui nous reste à offrir au monde? Des fausses doctrines, du vin qui enivre, qui rend confus. Et la suite de la prophétie nous dit ce qui va se passer. C'est-à-dire que celles et ceux qui ont rejeté l'évangile éternel et qui sont devenus Babylone vont mettre en place un système de manière à pouvoir persécuter les véritables adorateurs, celles et ceux qui ont accepté le message du premier et du deuxième ange. Et nous le lisons à partir du verset 9. « Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête, à savoir la bête qui monte de la mer, d'après ce qu'on peut lire dans les premiers versets du chapitre 13 d'Apocalypse, laquelle est le symbole de la Rome papale. Et son image, poursuit-il, l'image de cette bête, laquelle est établie par la deuxième bête d'Apocalypse 13, celle qui monte de la terre, laquelle est un symbole des États-Unis d'Amérique. Autrement dit, il s'agit d'une organisation politico-religieuse dominée par le religieux, où le religieux se sert du civil comme son bras pour mettre à exécution ses décrets. Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque de son autorité, ce qui est opposé au sceau de Dieu que nous avons vu en décortiquant le message du premier ange, qu'est le sabbat. Et les autorités catholiques reconnaissent que le dimanche est la marque de leur autorité. La marque de la bête, mes amis, c'est bel et bien l'observation du dimanche. Le dimanche étant le signe de l'autorité de l'Église catholique. Donc leur marque sera l'observation du dimanche. Et la prophétie poursuit en disant que certains la prendront au front, d'autres à la main. Certains seront doctrinalement convaincus qu'il faut observer le dimanche. D'autres ne le seront pas, mais accepteront cela de manière à pouvoir acheter et vendre, comme il nous est dit à la fin du chapitre 13 d'Apocalypse. Eh bien, toutes ces personnes-là boiront aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour, ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. Mes amis, cela est l'avertissement le plus terrible qui soit contenu dans les Saintes Écritures. De grâce, ne prenez pas ce message à la légère, car votre destinée éternelle en dépend. votre destinée éternelle en dépend. Car ce message est la vérité pour notre temps. Ce message, mes amis, est le dernier message de miséricorde que Dieu nous envoie. Et le troisième messager termine en disant, « C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Il établit un contraste entre la fausse adoration et la véritable adoration. Ceux qui adorent la bête et son image et ceux qui adorent Dieu et son image, à savoir Jésus-Christ. En quoi faisant? En observant les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Cette troisième proclamation, mes amis, polarise le monde. Où serez-vous? Où voulez-vous être? Du côté de ceux qui suivent la papauté? Ou du côté de ceux qui suivent Dieu? Si vous souhaitez plus d'informations concernant ce message du troisième ange, nous vous invitons à vous rendre sur la page prédication du site leres.org sous laquelle vous trouverez des présentations beaucoup plus détaillées concernant le message des trois anges. Mais j'aimerais revenir sur un point que nous avons mentionné et lequel nous allons considérer au début et à la fin de cette présentation. C'est que Dieu nous demande de l'adorer. Le premier ange nous demande d'adorer le Créateur, celui qui a créé toutes choses, le ciel, la terre, la mer, la nature. Le premier ange nous demande d'adorer le Créateur de la nature et non la nature, de manière à pouvoir adorer le Créateur. Cela est très important, mes amis, car en ces derniers jours dans lesquels nous vivons, une contrefaçon est en train d'être mise en place. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, je vous invite à vous rendre avec moi dans le livre des Psaumes, au chapitre 139. Et là, David nous parle de l'omniprésence de Dieu dans les termes suivants. « Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? » David était en train d'exprimer ici que le Dieu Très-Haut est partout présent par son esprit, par le moyen de son esprit. Cet être, Dieu, est physiquement présent à un endroit bien précis du sanctuaire céleste, à l'heure actuelle, avec Jésus-Christ son Fils, lequel est dans le ciel, bien évidemment. Mais son omniprésence est par le biais de son esprit. Dieu, l'être que nous appelons Dieu, n'est pas matériellement en toute chose. Il est présent, physiquement parlant, matériellement parlant, corporellement parlant, dans un lieu bien précis du ciel, à l'heure actuelle où nous parlons. Mais sa présence en tout lieu est en esprit, est par l'esprit. C'est pour cela que nous croyons qu'il y a un seul Dieu, un être personnel, spirituel, le Créateur de toutes choses, omniprésent, omniscient et éternel, infini en sagesse, en sainteté, en justice, en bonté, en vérité et en miséricorde, immuable et partout présent par son représentant, le Saint-Esprit. Cette conception que la Bible, la parole de Dieu, nous présente concernant l'être qui est appelé Dieu, ou plus généralement la divinité, est opposée à la conception du panthéisme. Le Robert Dictionnaire nous définit le panthéisme de façon suivante. Doctrine selon laquelle Dieu est l'unité du monde. Deuxièmement, culte de la nature divinisée. D'après le panthéisme, Dieu n'a pas de présence physique à un endroit bien précis, mais plutôt, il est incarné dans tout ce que nous voyons, dans toute la nature. En fait, d'après cette philosophie, la nature elle-même serait le corps de Dieu, sa présence matérielle. Or, mes amis, cela est contraire à ce que nous dit l'Écriture. Et Dieu nous met en garde, avant que Jésus ne revienne, de ne pas tomber dans cette hérésie, de ne pas nous laisser tromper par cette fausse doctrine. J'aimerais que nous considérions maintenant un message qui a circulé sur les réseaux sociaux récemment.
Nous vivons avec le pied sur l'accélérateur du matin au soir. Cela ruine la santé mentale, la santé spirituelle, ainsi que la santé physique. Plus encore, cela affecte et détruit la famille et par conséquent la société. Le septième jour, il s'est reposé. Ce que les Juifs observaient et observent encore était de considérer le sabbat comme saint. Le samedi, vous vous reposez un jour par semaine. C'est le minimum. Par reconnaissance, pour adorer Dieu, pour passer du temps avec la famille, pour jouer, pour faire toutes ces choses. Nous ne sommes pas des machines.
Dans ce message, le pape François annonce que, et il reconnaît très précisément, que le sabbat du septième jour est bel et bien le samedi. Et il appelle même le monde à l'observer. Mais qu'en est-il réellement? Qu'en est-il réellement? Le pape serait-il vraiment en train d'amener le monde à observer le sabbat du septième jour dont la Bible nous parle et dont Dieu nous demande, à travers le message des trois anges, d'observer? L'année dernière, nous avons eu l'occasion de parler du pacte éducatif global comme étant le plan de la papauté pour préparer le monde à accepter le repos dominical. Et de manière à bien comprendre la présentation actuelle, je vous invite, si vous considérez cet enregistrement, à prendre le temps d'abord de considérer celle-ci pour bien comprendre ce que nous allons exposer aujourd'hui. Dans cette présentation, nous avons vu que le pape François se propose de se servir de la question du changement climatique de manière à pouvoir avancer et préconiser, présenter au monde l'observation du dimanche comme jour de repos. Et il parle aussi, et ce sur la base de son encyclique Laudato Si, qu'il a publié en 2015. Et il parle aussi dans cette encyclique de la divinité qu'il reconnaît, qu'il présente comme étant la Trinité. Et nous avons eu l'occasion de montrer que cette question du climat, la façon dont cela est abordé, est une tromperie pour les âmes, pour les personnes qui ne sont pas au courant des avertissements que Dieu nous envoie dans la prophétie biblique. Au début du mois de mars de l'année 2020, le pape François a lancé la semaine Laudato Si. Avant de considérer la vidéo du lancement, j'aimerais que nous puissions lire ensemble ce qui est porté sur la page à propos de ce site laudatosiweek.org, autrement dit la semaine Laudato Si. Dans la page à propos, il est dit que 2020 marque le 5e anniversaire de Laudato Si, encyclique publiée le 24 mai 2015. 5 ans après sa publication, des milliers de personnes au sein de leur diocèse, de leur paroisse, de leur communauté religieuse, de leur réseau, de leur école ou encore de leurs centres médicaux ont pris ces enseignements à cœur. Les institutions catholiques et les fidèles ont vu dans Laudato Si l'expression moderne de valeurs ancestrales. L'encyclique nous apprend à aimer notre prochain alors même que nous faisons face à une catastrophe écologique. Laudato Si a été reçu comme un texte d'une profondeur et d'une beauté inoubliable. Et il a incité les gens du monde entier à approfondir leurs réflexions sur le Créateur et la création. Sa vision de l'écologie intégrale qui tisse un parallèle entre notre rapport à Dieu, à la nature et aux autres, enseigne une vérité à la fois simple mais essentielle sur les changements nécessaires pour nous délivrer du, dit-il, péché écologique. La semaine Laudato Si célèbre les progrès accomplis ensemble et accroît nos ambitions pour l'avenir. La semaine Laudato Si ne s'inspire pas uniquement de l'encyclique, mais également d'autres textes publiés au cours des 5 dernières années. Cela inclut Querida Amazonia, l'appel apostolique du synode pour l'Amazonie, la déclaration conjointe des conférences épiscopales pour une justice environnementale et bien d'autres encore. Notez que ici, il est parlé de la notion du péché écologique. Du péché écologique. Pour celles et ceux qui ont lu leur Bible, nous savons que le péché est la transgression de la loi. Or, le pape, ici, invente une nouvelle définition ou l'applique de manière plus large à l'écologie. Comme si que le fait de ne pas s'intéresser à l'écologie, eh bien, cela est un péché. Mais il n'y a pas que cela, car il nous faut savoir une chose, c'est que le 14 mai 2020, c'était le rendez-vous que le pape avait donné au monde entier pour activer le pacte éducatif global. Mais à cause de la crise sanitaire que notre monde connaît en ce moment, le COVID-19, le coronavirus, le pape François a reporté cela au mois d'octobre. Mais à la place, eh bien, a été mis la semaine Laudato Si. La semaine Laudato Si. Et durant cette semaine, les personnes qui désirent y participer ne seront pas simplement invitées à s'inspirer de ce qui est marqué dans l'encyclique Laudato Si, mais également d'autres ressources qui ont été publiées durant les 5 dernières années. Et il a cité premièrement Querida Amazonia. Querida Amazonia est une exhortation apostolique post-synodale du pape François qui a été publiée en février 2020. Et j'aimerais que nous puissions prêter attention à un paragraphe de ce document. Très précisément, le paragraphe 74, où il est dit « De même, la relation avec Jésus-Christ, Dieu et vrai homme, libérateur et rédempteur, n'est pas contraire à cette vision du monde fortement cosmique qui caractérise ces peuples, parce qu'il est aussi le ressuscité qui pénètre toutes choses. Pour l'expérience chrétienne, toutes les créatures de l'univers matériel trouvent leur vrai sens dans le Verbe incarné, parce que le Fils de Dieu a intégré dans sa personne une partie de l'univers matériel où il a introduit un germe de transformation définitive. Il est glorieux et mystérieusement présent dans le fleuve, dans les arbres, dans les poissons, dans le vent, comme le Seigneur qui règne dans la création sans perdre ses plaies transfigurées. Et dans l'Eucharistie, il assume les éléments du monde en donnant à chacun le sens du don pascal. Bien-aimés, chers amis, ici est manifestement présenté un enseignement panthéiste. Car le pape François dit que le ressuscité, à savoir Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui par nature même donc est Dieu, eh bien pénètre toute chose. D'après lui, Jésus-Christ pénètre toute chose. Et il dit qu'il est présent dans le fleuve, dans les arbres, dans les poissons, dans le vent. C'est du panthéisme, mes amis. C'est du panthéisme. Et ce panthéisme-là, et si vous avez considéré la présentation que je vous ai recommandé de regarder il y a quelques instants de cela, à savoir le pacte éducatif global, préparation mondiale au repos dominical, eh bien, nous avons démontré que la divinité à laquelle souscrit Rome et que Rome se propose et propose au monde d'adorer est la Trinité. Et lorsque vous adorez la Trinité, mes amis, eh bien, vous êtes automatiquement amené dans le panthéisme. Vous êtes automatiquement amené dans le panthéisme. Et nous disons cela car toutes les religions qui croient en la Trinité suivent la papauté en ce sens. Considérons maintenant la vidéo d'invitation du pape sur la semaine Laudato Si.
¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? ¡Climate justice! Motivado por esta pregunta, quisiera invitarlos a participar en la Semana Laudato Si, del 16 al 24 de mayo del 2020. Es una campaña global en ocasión del quinto aniversario de la Carta Encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común. Renuevo mi llamado urgente a responder la crisis ecológica. El clamor de la tierra y el clamor de los pobres no dan para más. Cuidemos la creación, don de nuestro buen Dios creador. Celebremos juntos la semana Laudato Si. Que Dios los bendiga y no se olviden de rezar por mí.
Du 16 au 24 mai, le pape François appelle le monde à célébrer la semaine Laudato Si. De manière à venir à bout de l'urgence climatique. Je l'ai certainement précisé tout à l'heure. Mais je vais vous le rappeler. Et je vais vous montrer la preuve maintenant que la vidéo que nous venons de regarder a été publiée, comme l'indique cette capture d'écran de la page YouTube depuis laquelle est présente la vidéo qui figure sur la page d'accueil de laudatosiweek.org, eh bien, elle a été publiée le 3 mars. Le 3 mars 2020. Alors que le pays dans lequel la papauté se trouve était frappé, commençait à être touché par le COVID-19, le coronavirus. Pendant que les gens sont confinés chez eux et ne peuvent donc pas venir signer le pacte éducatif global, le pape François appelle le monde pendant une semaine à célébrer sa doctrine Laudato Si, laquelle vise en réalité à présenter le dimanche, à instituer le dimanche comme étant un jour de repos. Et ce, de manière connectée avec une compréhension de la divinité non seulement trinitaire, mais également panthéiste. Et considérons à présent un article qui a été publié le 26 mars de l'année 2019. Le pape François, Laudato Si contre le Green New Deal. Dans ma chronique précédente, j'ai soutenu que l'approche du pape François en matière de changement climatique centrée sur la culture est bien supérieure à l'adoption immédiate d'approches législatives comme le Green New Deal récemment lancé qui n'a aucune chance de passer. Selon les experts de la science du climat, nous avons 12 ans pour réduire considérablement nos émissions de carbone avant d'atteindre un point de basculement, après quoi le changement climatique est non seulement inévitable, mais désastreux. À la lumière de cette urgence, j'ai soutenu que nous devons consacrer une dizaine d'années à travailler à l'évolution de la culture, puis, au cours des dernières années, à adopter une législation dramatique dans un environnement culturel et politique modifié. À l'heure actuelle, les tentatives pour faire tomber le New Deal vert, ou le Green New Deal, dans la gorge du public peu disposé, ne font que peu de choses, mais les éloignent davantage du changement de culture dont nous avons besoin. On pourrait à juste titre s'interroger sur les détails de ce que François a en tête. Les lois exigent certaines actions spécifiques. Le changement de culture, en plus d'être souvent plus difficile à nommer et à définir, demande plus de travail et de patience. La prescription de François pour le changement de culture écologique se produit principalement dans son encyclique Laudato Si de mai 2015. Dans ce document magistral, François insiste à juste titre sur le fait que l'existence de lois et de réglementations ne fonctionnera pas pour freiner les comportements qui produisent le changement climatique par eux-mêmes. Pour que des lois produisent les effets à long terme nécessaires, la majorité des membres de la société doivent être suffisamment motivés pour les accepter et personnellement transformés pour réagir. Notez ici, dans cet article, et à la fin de sa lecture, où nous allons considérer des extraits principaux, nous allons vous révéler l'identité et très précisément d'où cela a été publié en fait. Car ce n'est pas un petit article. Dans cet article, comme je le disais, L'auteur se base sur la connaissance des scientifiques qu'ils disent qu'il y a 12 ans, à partir de 2018 en fait. Okay? Là, il a écrit ça en 2019, mais son article précédent datait du 15 avril 2018. Et les experts qu'il cite ont rendu leur rapport le 8 octobre 2018. Donc, il faut compter 12 ans à partir de 2018. Après cela, d'après les scientifiques, le monde connaîtra une catastrophe climatique sans précédent. Et donc, cet auteur dit que nous avons 10 ans pour faire les changements nécessaires. Et il explique qu'il faut d'abord, eh bien, travailler à l'évolution de la culture. Et durant les dernières années, adopter une législation dramatique dans un environnement culturel et politique modifié. Donc, il annonce que d'abord, il y a une phase d'éducation qui va d'abord prendre place. Et ils ont 10 ans pour le mettre en place. Et à la fin, il va falloir adopter des lois. Mais ces lois seront adoptées dans un environnement culturel et politique modifié. Ça veut dire qu'il ne ressemblera pas à celui que nous avons maintenant. Mes amis, quel est l'environnement culturel et politique que nous avons maintenant? N'est-ce pas le pouvoir civil qui est séparé du religieux? Oui. Mais ce qui est annoncé ici entre les lignes, c'est que cela sera différent. Dans la suite, il dit que une telle conversion, dit le pape, doit être à la fois individuelle et communautaire. Mais ce doit être un changement de vie fondamental, un peu comme celui du saint le plus connu pour son accent spirituel sur la création de Dieu, Saint François d'Assise. C'est lui qui a inspiré le nom que le pape a donné à son encyclique Laudato Si. C'est sur lui que le pape François lui-même s'est inspiré pour son ministère dit apostolique. Et il continue en présentant la vie de Saint François d'Assise. Et prenons le temps de lire un petit peu, car à la fin, vous allez comprendre l'implication de cela, en fait. Avant de transformer totalement sa vie, Saint François était un jeune homme riche et privilégié, accro à la consommation et au plaisir superficiel de la vie. Après avoir rencontré les pauvres et avoir vécu une expérience spirituelle qui a changé leur vie, Francis a cependant réorienté sa vie loin du consumérisme, au point d'embrasser la pauvreté et de servir directement les pauvres. Nous ne sommes pas tous appelés à être saints, mais le pape, qui a pris le nom du grand saint d'Assise, insiste sur le fait que la planète exige maintenant un type similaire de conversion de ses habitants. Nous devons adopter une approche moins et plus de la vie anti-consumérisme qui nous conduira à transcender les angoisses malsaines causées par le fait d'être piégé dans la culture de consommation. Et le paragraphe se termine en disant « Nous devons également célébrer le repos, notamment en achetant et en vendant, en revenant à la concentration sur le respect du sabbat. » Donc, c'est là l'objectif. C'est là l'objectif. C'est d'imiter Saint François d'Assise pour, au final, arriver à la sanctification du sabbat. Mais lequel est-ce? Lequel est-ce? Lorsque vous lisez, mes amis, Laudato Si, vous vous rendez compte qu'il s'agit du dimanche. Il ne s'agit pas du sabbat du septième jour, contrairement à ce que le pape pourrait laisser entendre. Il s'agit du dimanche, et c'est le dimanche qu'il appelle en réalité le monde à sanctifier. Comme il l'a fait pour Saint François, le pape François fait valoir que ce type de conversion peut restaurer l'équilibre écologique, établissant l'harmonie en nous-mêmes, avec les autres, avec la nature et les autres créatures vivantes et avec Dieu. d'après le pape François, eh bien, nous avons la garantie que si nous suivons ce plan, nous allons pouvoir ramener l'harmonie du point de vue écologique. Nous allons pouvoir contrecarrer le trouble climatique vers lequel notre monde va. Et comment se propose-t-il de mettre cela en place? L'auteur continue en disant « Cela signifie que les institutions religieuses doivent travailler pour aider les gens à cultiver une fondation spirituelle qui rend possible la conversion écologique. Et quiconque se soucie de la menace existentielle du changement climatique mondial devrait faire tout ce qu'il peut pour soutenir les institutions religieuses dans ce travail. » Pour arriver à cette fin, le pape fait appel aux institutions religieuses. Il ne précise pas les institutions religieuses catholiques simplement, mais il parle des institutions religieuses de manière générale. Mes amis, toutes, nous allons voir dans quelques instants, vers la fin de cette présentation, il n'y a aucune institution religieuse qui est épargnée. La majorité d'entre elles, mes amis, vont être des instruments entre les mains de la papauté pour mettre en place cela. Et l'auteur continue en disant que le type de changement de culture que le pape François a à l'esprit nécessite également un changement profond envers l'éducation écologique qui doit avoir lieu, où est-ce ? À l'école, dans les familles, dans les médias, en catéchèse et ailleurs. Encore une fois, l'éducation, partout. Que vous soyez petit, que vous soyez grand, il y a un travail d'éducation qu'ils reconnaissent, qu'il faut mettre en place, de manière à ce que cela puisse être adopté. Et considérons la dernière slide. Ces changements ne sont pas seulement nécessaires dans le cadre de la lutte directe pour réduire les émissions de carbone. C'est le seul véritable espoir que nous devons changer la culture afin qu'un jour nous acceptions tous quelque chose comme le Green New Deal. Vous pensez que 10 ans, ce n'est pas assez de temps pour que des changements aussi spectaculaires se concrétisent? Vous sous-estimez le pouvoir de changer les cœurs pour amener une législation qui change la vie. En 2004, les agents du GOP ont mis des politiques anti-mariage homosexuel sous les bulletins de vote de l'État pour attirer les électeurs qui étaient opposés à la pratique. En 2014, la culture américaine s'était transformée de manière si spectaculaire sous le mariage gay et lesbien que pousser la législation à l'interdire aurait été un suicide politique. Notre culture pourrait également avoir une conversation écologique dans un délai similaire. Peut-être encore plus vite, compte tenu des nouvelles technologies. Mettons-nous au travail, conclut-il. Voyez-vous, d'après lui, d'après cet auteur, dans quelques instants, nous allons révéler non seulement son identité, mais aussi où est-ce qu'il travaille. Eh bien, 10 ans sont amplement suffisants, mes amis, pour mettre en place cela. Et il prend l'exemple sur le mariage gay, le mariage homosexuel. Comment, en 10 ans, cela a suffi pour faire basculer l'Amérique dans l'adoption de cela. Et il dit qu'avec les nouvelles technologies, cela peut aller encore plus vite. Vous avez Facebook, WhatsApp, toutes sortes de réseaux sociaux où vous pouvez en un instant, comme ça, diffuser des informations. Qui est l'auteur de cet article? Permettez-moi de vous dire que c'est loin d'être une petite pointure. Charlie Camozzi est professeur de théologie à Fordham University, laquelle est une université jésuite située à New York. Un enseignant jésuite. Qui mieux que les jésuites peuvent nous parler et nous expliquer ce qu'un pape jésuite a pour ambition de mettre en place? personne d'autre. Cet auteur est le mieux placé pour nous le dire. Et c'est pour cela que les informations contenues dans cet article que nous avons lu nous exposent de manière visible ce qui est en train de se mettre en place, en fait. Et l'auteur a vu juste, mes amis, car vous avez, dans plusieurs pays, à l'heure où nous parlons, des politiques qui ont été mises en place pour accorder davantage de caractère sacré au dimanche, dans la vision que le pape exprime, en tout cas dans Laudato Si. Un exemple est dans l'archipel d'Antigua et de Barbuda. La Chambre basse adopte le projet de loi 2019 sous les jours fériés. Le dimanche est un pas de plus vers sa concrétisation en tant que 12e jour férié reconnu par les lois d'Antigua et Barbuda. Hier, le projet de loi sur les jours fériés, amendement 2019, a été adopté à la Chambre basse du Parlement, date à laquelle le ministre des Affaires juridiques, Steve Cutty Benjamin, a déclaré qu'une décision avait été prise pour maintenir les recommandations formulées par les parties prenantes lors des récentes consultations. Antigua est chrétienne à plus de 80% ou plus, et ce qui est ressorti de cette discussion, Monsieur le Président, c'est que nous avons compris l'importance de maintenir le dimanche comme jour férié de droit commun. Je m'arrêterai là. Voyez-vous, une loi qui est votée, et on se réfère ici au caractère chrétien de ce jour, pour pouvoir voter cette loi. Le changement, mes amis, d'après la prophétie biblique d'Apocalypse 13, nous dit très clairement que c'est sous l'influence des États-Unis d'Amérique, à partir des États-Unis d'Amérique, que l'imposition de l'observation du dimanche sera mise en place. Or, d'ores et déjà, nous voyons qu'il y a des nations, il y a des gouvernements qui se préparent à cela. Et Antigua et Barbuda n'est pas le seul. Anayeho a demandé à ce que le dimanche soit une journée de repos en famille. La sous-ministre du développement des femmes, de la famille et de la communauté, Anayeho, a proposé que le dimanche soit une journée de repos en famille. Elle a déclaré que la proposition pourrait également faire partie de mesures préventives pour faire face aux problèmes de stress liés au travail, pour que ceux qui travaillent aient le temps de se reposer le dimanche. S'ils ne le font pas, c'est-à-dire se reposer, ils seront physiquement fatigués et stressés pour aller travailler le lendemain. Remarquez que cette personne qui occupe une fonction au sein du gouvernement de la Malaisie, eh bien, fait la promotion du dimanche comme jour de repos, comme devant être adopté, de manière à pouvoir permettre aux gens de se reposer. Il ne sera pas difficile, mes amis, de mettre cela en place dans les gouvernements. Et là-dessus, vous pourriez vous dire, oui, les gouvernements du monde entier autour des États-Unis d'Amérique vont certainement suivre. Mais pensez-vous que les Juifs vont suivre cela? Un érudit juif du nom de Jonathan Scorch, si je n'écorche pas son nom, a écrit un article que nous avons fait traduire pour vous. Et Nous allons lire uniquement les parties que nous avons surlignées en jaune, de manière à gagner du temps. Nous, les humains, sommes confrontés à un ensemble de crises écologiques graves. Compte tenu de leur influence largement répandue, la religion biblique et ses ramifications offrent une solution particulièrement convaincante et prometteuse. Le Shabbat, le jour de repos du sabbat. Un rituel hebdomadaire à la fois symbolique et avec des impacts réels. L'observation généralisée du Shabbat, bien fait, pourrait réduire les dommages environnementaux d'environ un septième dans une grande partie du monde et fournit une plateforme pour méditer en permanence sur nos péchés environnementaux et leurs conséquences. Imaginez si la plupart des monothéistes du monde, ceux qui viennent des traditions qui professent observer un sabbat hebdomadaire, ainsi que toute autre personne qui s'en soucie, choisissent un jour sur sept pour éliminer essentiellement leurs propres dommages à l'environnement sur une base cohérente. L'observation d'un sabbat hebdomadaire vraiment complet, ne rien faire, pour ainsi dire, offre une action efficace que l'on peut prendre maintenant pour aider à guérir notre environnement. J'ai lancé une campagne pour inspirer un mouvement de masse pour une observation plus maximale du sabbat parmi les monothéistes et tous ceux qui sont intéressés, le Green Sabbath Project. J'appelle, dit-il, au respect flexible mais maximal d'un jour de repos hebdomadaire, que ce soit le samedi, le dimanche ou le vendredi, pour différentes personnes ou dans différents endroits. Je ne suis pas en train d'appeler à une observation plus traditionnaliste en général par les juifs ou les chrétiens pour un Shabbat biblique ou rabbinique sous forme juive orthodoxe. Cet érudit juif est en faveur de l'observation, non pas du sabbat du septième jour, mais d'un sabbat. Il appelle tous les monothéistes à observer un sabbat. Si vous êtes musulman, vous devez complètement arrêter de travailler le vendredi. Si vous êtes juif, ou même adventiste, arrêtez complètement de travailler le sabbat. Et si vous observez, si vous êtes protestant ou catholique, vous devez complètement arrêter de travailler le dimanche. Un érudit juif qui écrit cela. Et notez que la base de son raisonnement et l'objectif de ce genre d'observation du sabbat, c'est que un rituel hebdomadaire à la fois symbolique et avec des impacts réels, l'observation généralisée du Shabbat, bien fait, pourrait réduire des dommages environnementaux d'environ un septième dans une grande partie du monde et fournir une plateforme. Donc, cela permettrait aux gens d'avoir une plateforme. Pourquoi ? Pour méditer en permanence. Sur quoi ? Sur nos péchés environnementaux et les conséquences. C'est le même langage que le pape François, en fait. Le péché écologique. Et cet auteur juif-là reprend des termes similaires, les péchés environnementaux. Donc, en observant un sabbat de cette façon-là, l'objectif, c'est de pouvoir, non pas nous soucier de nos péchés moraux, de manière à pouvoir nous repentir devant Dieu, d'avoir transgressé l'un des 10 commandements, mais de pouvoir prendre conscience du péché écologique. Dans les années dans lesquelles nous allons avancer, si Dieu nous prête la vie, nous allons voir les autorités politiques, nous allons voir les autorités ecclésiastiques plus intéressées par le péché écologique que le péché moral. Le péché écologique est présenté comme devant surpassé, ou tout du moins comme étant plus grave que le péché moral. Et donc, les mesures écologiques, le sabbat écologique, eh bien, sera destiné et va surpasser n'importe quel autre sabbat qui pourrait être observé. Et lorsque vous êtes flexible, et que pour vous, il ne s'agit pas d'observer un jour bien précis, mais du moment que vous en faites un seul, c'est que vous êtes prêt, tacitement, vous révélez que vous êtes prêt à observer n'importe quel jour, du moment que vous pouvez observer un sabbat qui vous permet de ne pas pécher de manière écologique. Venant de la bouche d'un juif, cela est très clairement une répudiation, mes amis, du sabbat du septième jour. Est-ce que vous voyez la séduction? Est-ce que vous voyez la séduction, mes amis? Voilà pourquoi il ne sera pas étonnant de voir des personnes qui observent le sabbat du septième jour lequel commence le vendredi coucher du soleil, au samedi coucher du soleil, abandonner ce jour de repos pour observer le sabbat du premier jour de la semaine. Mais qu'en est-il du peuple adventiste? Qu'en est-il de ceux qui attendent le retour de Jésus? Très précisément, les adventistes du septième jour. Qu'en est-il? Vont-ils, eux aussi, basculer? Il serait prétentieux de ma part d'affirmer ou d'avancer un chiffre pour vous dire exactement qui sont ceux qui vont basculer. Mais les éléments que nous allons voir maintenant, mes amis, sont des preuves irréfutables pour vous montrer qu'un grand nombre d'adventistes du septième jour vont basculer dans cette philosophie et de ce fait vont abandonner le sabbat de l'Éternel. Il est intéressant de noter tout d'abord la position de l'organisation des adventistes du septième jour quant à la divinité. En effet, la croyance fondamentale des adventistes du septième jour numéro 2 de l'organisation moderne, est la Trinité. Ils disent, il y a un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, unité de trois personnes coéternelles. Dieu est immortel, omniprésent, omniscient, souverain et toujours présent. Remarquez que ici, l'organisation moderne des adventistes du septième jour croit en l'omniprésence de Dieu et que ce dernier est toujours présent. Contrairement aux pionniers de l'Église qui ne croyaient pas en la Trinité, cette organisation croit non seulement en la Trinité, mais vient se positionner de la même manière que l'Église catholique. À savoir que pour eux, Dieu n'est pas omniprésent par l'Esprit, mais qu'il est tout simplement omniprésent. Cette déclaration, cette croyance fondamentale que nous venons de lire, vient en fait détruire la personnalité de Dieu. Elle exprime de manière subtile un enseignement panthéiste. Et force est de constater que cela a une influence sur la façon dont les adventistes perçoivent la nature.
No one understands the role faith plays in healthcare better than we do. We're Adventist Health, and we do our best to ensure you never question the faith you put in us.
Welcome to the Hope and Healing Garden at Adventist Medical Center in Behavioral Health. I'm Maria, coordinator of the Counseling and Therapy Department. We have created this garden for our patients to use as part of their recovery and healing process. We offer a variety of services and therapies to help them. Horticultural therapy, art therapy, dance movement therapy, recreational therapy, occupational therapy, and music therapy.
Hi, I'm the horticultural therapist and the gardener here at the Hope and Healing Garden at Adventist Medical Center. I want to show you some of the things that our patients have done here in the garden. This is a very good example. We've planted the succulent garden. It's very textural. The associations with nature help our patients with mental illness to reconnect. They reconnect with nature, with pleasurable experiences, with other people, and with themselves.
If you have a family member, friend, or loved one that is suffering from mental illness, they won't find a more beautiful place to heal than here at Adventist Medical Center in the Hope and Healing Garden.
To learn more about our comprehensive services, visit AdventistHealthNW.com. Adventist Health, care you can have faith in.
Dans cette présentation de l'Institut Adventist Health, à savoir, si je traduis pour vous, la santé adventiste, nous avons là une vision très clairement panthéiste qui est appliquée. Ici, il est présenté des soi-disant méthodes pour guérir. Vous avez toutes sortes de méthodes. Mais notez que l'objectif est de pouvoir reconnecter les gens avec la nature. À aucun endroit, à aucun moment dans cette présentation, il n'est question de Dieu. D'ailleurs, notez que la foi est placée dans l'institution. Et cela est dit au début et à la fin. Il n'y a pas de foi en Dieu ici. Mais dans la méthode qui est employée. Or, la méthode conduit à être reconnecté avec la nature. La thérapie par la danse, la thérapie par la musique, cela ne figure pas au programme de Dieu, mes amis, car Dieu a 8 remèdes naturels que nous vous avons déjà présentés lorsque nous avons parlé comment renforcer son système immunitaire face au COVID-19. Il y a là manifestement les fruits de l'enseignement de la croyance numéro 2. Ce sont manifestement là les fruits que porte la croyance numéro 2 des Adventistes du septième jour, à savoir la Trinité et le panthéisme qu'elle véhicule. Car il vous suffit d'être reconnecté à la nature de manière à pouvoir guérir. Alors que la Bible nous dit que c'est Dieu qui est notre salut, c'est Dieu qui nous guérit. Mais ici, on nous fait comprendre que si on est reconnecté à la nature, on sera guéri. C'est très clairement une vision panthéiste ici, qui s'accorde parfaitement avec ce que le pape François, ainsi que l'érudit juif que nous avons vu tout à l'heure, se propose de mettre en place. Et pour bien comprendre le fait que le panthéisme a véritablement pénétré l'adventisme du septième jour, nous vous invitons à regarder la présentation « L'alpha et l'oméga des hérésies mortelles » qui a été donnée lors du Committing Réunion 2017, lequel avait pour titre « Les fondements renversés ». Qu'en est-il de la position de la conférence générale, de l'organisation même, autrement dit, Nous avons eu l'occasion de vous la présenter dans le pacte éducatif global, préparation au repos dominical. En effet, le 3 décembre 2015,
année où le pape publia son encyclique Laudato Si,
ils ont affirmé que nous soutenons les efforts des dirigeants mondiaux et de toute l'humanité pour protéger et respecter ce que Dieu a créé et qu'il nous a confié. Il est manifeste que l'organisation adventiste moderne soutient les dirigeants mondiaux dont le pape est à la tête en faveur du climat. Par voie de conséquent, l'organisation adventiste moderne est en faveur. Elle est en faveur des plans que nous vous avons présentés ici, lesquels ont été élaborés par le pape et ses sbires. Comme nous l'avons déjà dit, il nous faut effectivement préserver la création. Nous ne sommes pas en train d'appeler ici à volontairement détruire les œuvres de Dieu. Mais il y a là, mes amis, une ruse de Satan pour les enfants de Dieu en ces temps de la fin. Et nous ne pouvons pas nous joindre à ces individus, car ce serait être trompé, ce serait être piégé par Satan et fermer les yeux sur les implications de cette entreprise funeste. Et je puis vous dire que cette vision est véritablement ancrée dans le système adventiste. Sur le site de la Fédération protestante de la FPF, nous pouvons trouver un petit ouvrage qui s'intitule « La Bible en 6 ans ». Et ce petit ouvrage est édité par plusieurs églises protestantes, dont l'Union des fédérations des églises adventistes de France, par le biais de la maison d'édition Vie et Santé. Et notez que dans la capture d'écran du milieu, il est dit que le dimanche sont indiqués également des textes tirés de la liste de l'Église catholique, 3e édition, 2002. Et pour les temps de fête, Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, nous vous suggérons plusieurs lectures d'éclairage. Et lorsque vous regardez la capture qui est à l'extrême droite, vous voyez que il est question le 7 juin d'une journée dédiée à la Trinité. Qu'est-ce que cela veut-il dire en fait? Eh bien, que, premièrement, l'Église adventiste du septième jour est tacitement en faveur de l'enseignement de l'Église de Rome. Elle, tout du moins, elle manifeste une sympathie pour son enseignement. Autrement, elle n'aurait jamais participé à la rédaction d'un document faisant la promotion et mettant en avant le dimanche les textes de l'Église catholique ainsi que les fêtes qu'observe l'Église catholique ainsi que ses filles, les Églises protestantes, que Dieu, à travers le deuxième ange, qualifie de Babylone. Mais cela nous montre aussi que la Trinité adorée par les adventistes est la même Trinité qu'adorée par les protestants et aussi l'Église catholique romaine. Par conséquent, le panthéisme du pape est le même panthéisme qui s'est infiltré dans l'organisation des adventistes du septième jour. Et lorsque vous êtes panthéiste, mes amis, eh bien, la protection du climat devient une priorité pour vous. C'est pour cela qu'il y a un danger pour toutes celles et ceux qui se trouvent dans ces organisations que nous avons citées. Là-dessus, vous pourriez me dire que ce sont des ouvrages qui ne sont pas officiellement distribués par les fédérations. À ce propos, je vous dirais que détrompez-vous, car cet ouvrage est distribué par les fédérations adventistes, notamment en Europe, en France. Mais il y a plus encore. Il y a plus encore. Sur un stand d'une librairie adventiste en France, a été prise cette photo et ces photos que nous allons vous présenter, où il est question d'ouvrages de Saint François d'Assise et de Mère Teresa. Et la preuve qu'il s'agit bien d'ouvrages qui ont été mis en vente par la Fédération France Nord de l'Église Adventiste se trouve au recto, où vous avez l'étiquette de vente, sous laquelle est très clairement inscrite qui vend ces ouvrages, à savoir la Fédération des Églises Adventistes du Nord de la France, la FFN. Ce n'est certes pas l'édition Vie et Santé qui a édité cet ouvrage, mais pourtant, les librairies adventistes modernes vendent ces ouvrages, sans compter des livres de prière dans lesquels on enseigne aux enfants le Notre Père, mais aussi le Je vous salue Marie. Mes amis, force est de constater que l'éducation que le pape François se propose de donner à ce monde, et notamment d'imiter l'exemple de Saint François d'Assise, a bel et bien infiltré l'organisation des Adventistes du septième jour, que vous le vouliez ou non. Les faits sont là. C'est pour cela que, précédemment, je vous disais que presque toutes les organisations religieuses sont influencées par cette éducation qui est en train d'être mise en place. Au départ, il s'agit d'éducation. Et à la fin, le système culturel et politique va changer et des lois seront votées en faveur de l'instauration de la loi du dimanche, de son observation. Et même si vous êtes des observateurs du sabbat pour l'instant, mais que vous adorez une divinité telle que la Trinité, qui en fait revient à du panthéisme, vous êtes sur la bonne voie, la bonne et sûre voie pour accepter l'éducation que le pape a proposée à ce monde. C'est pour cela, mes amis, que nous devons revenir à l'adoration du véritable Dieu, le Père, et de son Fils Jésus-Christ, pour ne pas être piégé par cela. Il nous a été donné l'avertissement suivant. Dans l'ouvrage La tragédie des siècles, à la page 636, paragraphe 1, loin d'en convenir, ces conducteurs prétendent que la dégradation morale contemporaine est en grande partie attribuable à la profanation du dimanche et que l'imposition légale de son observation relèverait notablement le niveau moral de la société. Le fait qu'un mouvement en faveur d'une erreur se trouve lié à une œuvre bonne en elle-même n'est pas un argument en faveur de l'erreur. Dissimulé dans un aliment sain, un poison ne change pas de nature. Il n'en devient au contraire que plus dangereux. La tactique de Satan consiste précisément à mélanger allérois assez de vérité pour la rendre plausible. Les animateurs du mouvement dominical peuvent se réclamer de réformes nécessaires basées sur des principes scripturaires, mais tant qu'ils associent à leurs activités des éléments contraires à la loi divine, les serviteurs de Dieu ne peuvent se joindre à eux. Rien ne peut justifier la substitution de préceptes humains aux commandements de Dieu. Bien-aimés, chers amis, ceux qui sont en faveur du repos dominical, du sabbat du premier jour de la semaine, le dimanche, ils prétendent vouloir relever le niveau. Ils prétendent travailler au bien de la société. Et leurs efforts, ce qu'ils disent est en apparence louable. Mais le problème qu'il y a, c'est que ces efforts qu'ils déploient sont contraires à la loi sainte, juste et bonne, d'après ce que nous dit l'apôtre Paul, du Créateur, du ciel et de la terre. Car ces efforts sont destinés à placer la créature au-dessus du Créateur. Or, toutes les créatures de Dieu qui veulent se préparer au retour de Jésus, tous les êtres humains, autrement dit, qui veulent se préparer au retour de Jésus, ne doivent rien avoir à faire avec ces promoteurs. Quand bien même, ce dont il parle contient quelques vérités. N'oubliez pas que Satan est un ange de lumière et que pour tromper, il faut qu'il mélange juste une erreur dans beaucoup de vérités de manière à ce que son appât puisse véritablement fonctionner. Oh, mes amis, nous vivons en des temps qui sont solennels. Nous voyons se mettre en place ce que la prophétie biblique nous a annoncé depuis des siècles. Nous voyons se mettre en place petit à petit les choses que, en tant que peuple adventiste, nous avons prêché depuis des années. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous ont les yeux fermés quant à ces choses. Beaucoup d'entre nous sont tombés dans le panthéisme à cause de l'enseignement de la Trinité. Et de ce fait, sont sur la bonne voie pour être séduits par le sauvetage de la planète que se propose d'entreprendre le pape François et qu'il propose au monde d'entreprendre avec lui. Bien-aimés, en Apocalypse 18, verset 4, Dieu envoie un message à son peuple en disant « Sortez du milieu d'elle, à savoir de Babylone, mon peuple, de peur que participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. » Êtes-vous un enfant de Dieu? Si oui, votre Dieu qui vous aime vous invite à sortir de toute institution contenant des enseignements panthéistes, tels que la Trinité, de manière à ne pas tomber dans le piège écologique qui est placé au pied de notre humanité en ces temps-ci. D'après les scientifiques, dans 12 ans, notre monde connaîtra des désastres naturels sans précédent. Et d'après les autorités jésuites de l'Église catholique, ils ont 10 ans, un peu moins de 10 ans, pour éduquer le monde entier, pour les rendre beaucoup plus sensibles à l'écologie, de manière à ce qu'au final, ils puissent voter des lois destinées, disent-ils, à préserver l'environnement et à éviter le cataclysme. Mais comme nous l'avons déjà vu, cela est un piège. Et ce qui se passera, c'est qu'ils incrimineront les observateurs de la loi de Dieu comme étant les responsables, comme étant les pécheurs, comme étant les coupables, puisqu'ils commettent le péché écologique. Ils refuseront, et ce parce qu'ils refuseront d'observer le dimanche, le sabbat du premier jour, qui sera mis en place en tant que sabbat pour préserver l'écologie. Voilà, mes amis, la séduction qui est mise en place. Et Dieu nous met en garde. Dieu nous met en garde de n'avoir aucune espèce d'association avec des institutions faisant la promotion du dimanche. En aucune manière. Quand bien même elles ont une majorité de vérité, quand bien même ce qu'elles défendent semble être noble, nous ne pouvons, mes amis, nous joindre à eux au risque de déplaire à Dieu. C'est pour cela que nous devons prêter attention aux signes des temps, mes amis, de manière à être en mesure de pouvoir les discerner pour réaliser que le retour de Jésus est proche et que c'est maintenant le moment d'accepter et de vivre le message des trois anges qui nous est présenté en Apocalypse 14. Jésus revient bientôt, mes amis. Voulez-vous vous préparer? Je vous invite à pouvoir vous prosterner avec moi pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole qui est véritablement une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et notre Père céleste, tu ne nous as pas laissés sans boussole, sans information quant au dernier jour. Tu nous as très clairement annoncé les séductions qui seront élaborées et mises en place de manière à pouvoir tromper, s'il était possible, même les élus. Et tu aspires à ce que nous puissions prendre garde, prêter notre oreille, une oreille attentive à la triple proclamation que tu nous envoies en ces derniers temps, afin que nous soyons préparés pour le retour de Jésus. Alors donne-nous, Seigneur, des oreilles pour entendre, un cerveau, un esprit qui comprend, et des mains et des pieds qui vont mettre en pratique tout ce que tu nous auras enseigné. Que personne, tendre Père Céleste, qui entend, que personne parmi toutes celles et ceux qui entendront ce message ne soit séduit, mais qu'au contraire, qu'ils aient la lucidité de manière à pouvoir non seulement sauver leurs âmes, mais aussi celles de leurs semblables, et de partager, Seigneur, eh bien, cette triple proclamation avec chacun, avec toutes celles et ceux qui les entourent. Bénis-nous, Père, et préserve-nous du malin et continue à nous instruire. Nous en prions au nom de Jésus. Amen.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.